I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
What time is it now? Time is it now? Doctor, what time is it now? Time is it now?
Got gun, Hulk left slot.
Dixie left, Key left.
Mercedes, wide chip, Ricky.
Bieber left, 75, Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead, goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le podcast Touch en Actu. Alain Maté, toujours très heureux de vous retrouver pour votre heure de NFL. Il est à mes côtés comme toutes les semaines, c'est Raphaël Masmejean. Salut Raphaël.
Salut à tous.
Je remarque que tu n'es pas en t-shirt cette semaine.
Ah, on prend
tu es un peu frileux.
C'est ça.
Première fois de l'année que je te vois pas en t-shirt. Le programme de cette semaine, ce sont bien sûr les matchs du Divisional Round des playoffs. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. La réception de Dez Bryant, la victoire des Patriots. Tout ça, direction ensuite l'actu pour parler un peu des dernières embauches chez les coachs. Numéro 99 oblige, la chronique de Raoul Villeroy est dédiée à JJ Watt, vous l'aurez deviné. Et puis après vos questions, on parlera des finales de conférence. C'est parti pour un nouveau podcast.
Here's one down the sideline. Pass caught by Dez Bryant. They're going to mark him inside the one. And a brilliant catch by number 88.
After review, it has been determined that the receiver did not maintain possession of the football during the process. The ball comes loose, hits the ground. Therefore, the ruling is an incomplete.
What's going on? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La tristesse des supporters des Cowboys. 26 pour les Packers, 21 pour les Cowboys. Cette semaine encore, on commence donc avec Dallas parce que, encore une fois, cette équipe se retrouve au cœur de l'actu. Victoire des Packers donc, mais avec un énorme tournant dans ce match. 4ème et 2 à 5 minutes de la fin. Tony Romo cherche Dez Bryant en profondeur. Le receveur capte le ballon, tombe juste devant la end zone. Les arbitres annulent la réception après un challenge vidéo. Est-ce que les Cowboys se font pigeonner, Raphaël?
Non, les Cowboys se font pas pigeonner. La règle est assez claire en NFL là-dessus. Il faut que le receveur, pendant toute sa chute avec la balle, garde le contrôle de la balle. Les arbitres ont considéré que c'était pas le cas pour Dez Bryant. À partir de là, ils appliquent la règle. La règle est respectée. Pour moi, on peut pas parler de pigeonner.
Est-ce que tu crois à son explication quand il dit qu'il tendait le bras pour essayer d'avoir le touchdown?
Ouais, ça, je veux bien y croire. Et d'ailleurs, même moi, en revoyant les ralentis, je suis pas persuadé qu'il ait pas le contrôle, qu'il ait pas tout le temps le contrôle de la balle. Moi, j'avais l'impression qu'il avait le contrôle de la balle tout le temps. Maintenant, les arbitres ont peut-être plus d'angle que ce qu'on a, la plupart d'entre nous ont pu voir. Ils ont fait un choix. En tout cas, la règle, a priori, est respectée. Donc, à partir de là, encore une fois...
Je suis d'accord pour le point avec la règle. Après, le problème, c'est que pour moi, il a le contrôle parce que s'il ne l'avait pas eu, il l'aurait perdu. Et c'est surtout que
il aurait très bien pu garder le ballon contre lui et tomber en arrière. J'en ai qui, j'entends, oui, il n'a pas le contrôle parce que justement il essaye de se rattraper avec la main qui a le ballon. Il aurait pu mettre le ballon contre lui et tomber par terre sur le dos, ce ne serait pas le premier receveur à l'avoir fait.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Odell Beckham, sur sa réception de fou, il tombe en arrière.
Il ne l'a pas fait.
Donc pour moi, justement, ça prouve qu'il a le contrôle parce qu'il l'a et il essaye de tendre le bras pour aller au touchdown, même s'il ne le tend pas beaucoup. Mm-hmm. Voilà, il aurait très bien pu la caler contre lui s'il n'était pas sûr de l'avoir et tomber sur le côté ou tomber sur le dos. Et justement, ce qui me prouve qu'il l'a, il a besoin d'une main pour l'avoir en plus, hein, Dez Bryant. Hein. Il a des paluches. Donc il l'a et il essaie de tendre un peu. Après, encore une fois, bien sûr, par rapport à la règle, pourquoi pas. L'interprétation est quand même super cruelle. Et le problème, pour moi, hein, il est là, c'est que la règle n'est pas claire. C'est pour ça que je mets un jingle où on dit « what's going on ». Le problème, c'est que la règle, elle n'est pas claire. Au bout d'un moment, tout le monde s'écharpe depuis dimanche sur « alors oui, mais c'était plutôt comme ça, ouais, mais la règle, elle dit ça, ouais, mais la règle, faut qu'il fasse un truc ». C'est-à-dire que soit on dit « le ballon ne doit jamais toucher le sol », voilà, point barre. Tac, là, il a touché le sol, c'est fini. Voilà, mais un truc clair, parce qu'un mouvement footballistique, est-ce qu'il a fait un mouvement footballistique en faisant deux pas derrière et en tendant à moitié le bras? Et par exemple, ce qui est immonde, c'est que s'il avait passé le bras au-dessus de la end zone, il y avait touchdown et il pouvait le lâcher autant qu'il voulait derrière.
Ouais, non, c'est sûr.
Parce que donc là, il la lâche en touchant le sol. Si ça avait été 20 cm plus loin, qu'il l'a passé au-dessus de la ligne et qu'il l'éclatait par terre et qu'elle lâchait, c'était touchdown.
Non,
c'est ça
bien,
qui est fou, quoi.
Non, mais c'est pas forcément une règle. Ouais, c'est peut-être une règle à revoir. Faut que la NFL ou du moins à clarifier. Maintenant, pour moi, ça change pas non plus le match parce que derrière, par exemple, les Cowboys ont eu l'occasion en défense de stopper les Packers.
Même chose qu'avec les Lions, tu perds le match sur beaucoup de choses en dehors d'une réception. Mais encore une fois, là, c'est vraiment, voilà, ils ont interprété la règle et ils sont dans leur droit, c'est litigieux, il n'y a pas de souci. Et encore, bon, il faut rappeler aussi, hein, la règle de l'arbitrage vidéo, c'est qu'il faut de la preuve pour inverser le jugement, une preuve sûre. En voyant la vidéo plusieurs fois, c'est sachant que le premier jugement, c'était qu'il y avait réception, elle est super difficile. Pour eux, c'était évident. Bon, très bien. Encore une fois, c'est pas choquant vis-à-vis de la règle, mais je suis d'accord avec Bryant quand il dit « s'il vous plaît, changez la règle ». Changez-la dans le sens que vous voulez, mais rendez-la claire, encore une fois. Soit le ballon doit jamais toucher le ballon, que ce soit un touchdown, que ce soit pas un touchdown, etc. Le mec doit pas toucher le sol, je veux dire, avec le ballon. Ou alors, il faut que l'arbitre juge qu'il avait possession, qu'elle est touchée ou pas. Par exemple, là, ça aurait été comme ça, je t'aurais dit il avait la possession, il avait la maîtrise. Il a gardé le ballon.
Ouais,
voilà. Mais qu'il y ait un truc clair, pas que ce soit il doit la capter, avoir la possession, avoir un football move, avoir un machin, avoir un truc, qu'il soit, enfin tu vois ce que je veux dire,
qu'il soit
pas en équilibre, que sa chaussure droite soit attachée, que, enfin tu vois, au bout d'un moment, faut qu'il y ait un truc clair. Et moi je te dis ça parce que j'aime bien que les gens découvrent le jeu, découvrent le sport et regardent les grands matchs, etc. Et pas à se dire ouais mais tu vois ton sport il est vraiment compliqué, la règle elle est complètement folle, je comprends rien. Moi ce que j'aime bien c'est que les gens puissent comprendre facilement même quand ils découvrent notre sport. Et le problème c'est que là tu regardes ça, va expliquer à un pote. Non mais alors il l'avait, mais il avait pas tout à fait le contrôle et il a pas fait un football move vers l'avant. Je veux dire, voilà, à côté de ça expliquer le hors-jeu c'est facile, hein.
Oui, c'est vrai. C'est plutôt facile, mais bon.
Donc voilà, ça c'est un peu mon problème. Après, comme on l'a dit, ils parlent pas que là-dessus. Moi, c'est la fin de la première mi-temps qui m'embête. Sur la troisième et un, la troisième et un.
Ouais.
Pourquoi ils passent alors que Murray est à 123 yards en 25 courses. Mais il est bien. Et en plus, ils ont un empty backfield, donc il y a même pas la menace de la course. Mais celle-là, elle me choque.
C'est vrai qu'elle est choquante, mais au final, c'est à peu près la même question sur la 4 et 2. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu tenter une course qu'une passe en profondeur comme ça? Alors après, je sais bien, c'est Dez Bryant. Au final, l'action a presque marché, donc c'était
action. Je suis d'accord. Mais
est-ce que ça aurait pas été mieux de jouer aussi au sol?
Ouais, mais à ce moment-là, je trouve qu'ils sont sur une bonne dynamique et qu'ils peuvent la... Encore une fois, tu mets au moins Murray dans le backfield pour avoir au moins la crainte qu'il y ait une passe, parce que derrière il y a le field goal raté en plus. C'est pareil, à la limite pourquoi tu joues pas la 4ème et 1 quand tu vois ce qu'a fait Bailey. Bon voilà, et après il y a aussi ce fumble de DeMarco Murray début de 3ème quart qui fait très très mal parce qu'ils vont chercher le 21-0 et parce qu'il s'est ouvert devant lui, hein, au moment où il la lâche, donc
c'est vrai,
c'est compliqué. Donc voilà, il y a plein d'erreurs, beaucoup de moments où le match se joue, pas sur une réception. Et oui, puis encore ça. Une fois, qu'est-ce qui nous dit qu'Aaron Rodgers va protéger un juste derrière? Parce qu'il reste du temps, il reste 5 minutes. Hein.
Ouais, il reste quasiment 5
donc
minutes.
Voilà, c'est puis, pas.
De toute façon, enfin, on l'a vu, même en défense, à la fin du match, ils ont eu l'occasion de récupérer la balle en, je crois, il y a une 3-6 à convertir quelque chose comme ça. Et Aaron Rodgers trouve Davante Adams pour la conversion.
Oui, oui.
Et voilà, et c'est ce qui permet de gagner le match. Non, mais voilà, si la défense avait su stopper.
Ils se font déchirer par Davante Adams qui a 7 réceptions pour 117 yards et un touchdown. Ça aussi, hein, il faut le stopper. Et il faut justement, pour en passer aux Packers, il faut rendre hommage. Aaron Rodgers, il est sur un mollet, ça se voit.
Ouais,
il est à 24 sur 35, à 316 yards et 3 touchdowns.
Non, c'est sûr, effectivement, lui, il fait de son côté un gros match parce qu'on a bien vu tout de suite en début de match qu'il ne pouvait pas sortir de sa poche, qu'il était très limité dans ses déplacements.
Sa première passe de touchdown est un bijou.
Ouais,
en avançant, là,
c'est vrai qu'elle est belle.
Incroyable.
Et donc, lui, on sentait que lui était limité. Heureusement, sa ligne offensive a élevé son niveau de jeu pour essayer de le protéger un maximum, qui bénéficie aussi peut-être d'une ligne défensive des Cowboys qui n'a peut-être pas assez blitzé. C'est un autre débat. Mais non, effectivement, les Packers sont aussi à féliciter parce qu'ils ils sont jamais sortis de ce match. Ils ont continué à... Rodgers a su faire ce qu'il a fait. Lacy a assez couru.
Voilà. Oui, Lacy était bien aussi, surtout en début de match. Ils ont un premier drive où il est transperce dans tous les sens.
Ouais.
Donc, c'était assez pas mal. Et puis, il y a un autre truc qui m'a choqué quand même. Il aurait pu être le héros de ce match, Dez Bryant, mais il a quand même que 3 réceptions pour 38 yards. J'avais déjà été un peu embêté par sa discrétion contre les Lions, surtout que ce n'était pas deux équipes avec des arrières, des cornerbacks fous. Et je trouve qu'il aurait pu être justement plus présent dans ces deux matchs.
Ouais, après, j'ai l'impression qu'aussi Tony Romo a surtout cherché l'option ouverte.
Oui,
et,
non, mais je suis d'accord. Mais Bryant aurait pu. Alors, il est souvent couvert.
En même temps,
contre
les Lions, il fait une ou deux réceptions vraiment très importantes. Là, sa réception, ça aurait pu être la plus importante du match limite. Voilà, moi, j'ai l'impression qu'aussi à côté, il a peut-être que 3-4 actions dans le match, mais celles qu'il fait sont vraiment importantes.
C'est vrai. Mais dans l'ensemble, ils sont plutôt efficaces. Hein. Romo a une fiche
très
propre.
Pas mal.
Murray à 123 yards.
Non,
ça se joue à pas grand-chose.
Ouais, c'est ça. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Ça se joue à une ou deux petites erreurs par-ci, par-là. Voilà. Mais enfin, bon, par rapport au Cowboys qu'on attendait en début de saison, une défense catastrophique, etc., c'est déjà tellement pour eux une sorte d'upset. Enfin, vraiment, on s'attendait pas.
Oui. C'est vrai que.
Saison, au final, est presque positive. Même si, une fois que t'es en playoff, tu perds, c'est toujours le truc.
Non, la saison est clairement positive. On s'attendait à ce qu'ils soient humiliés en défense.
Voilà.
Donc, ça, c'est un truc. Un petit coup d'œil sur l'avenir, justement, comme on fait avec toutes les équipes éliminées. Le boulot, justement, c'est de la défense, quoi.
Ouais, pour moi, c'est ça. Parce que maintenant, en attaque, t'as des joueurs, des playmakers sur chaque poste. Que ce soit... Même si DeMarco Murray est free agent.
Il est free agent.
Pas persuadé qu'il reste chez les Cowboys.
Ça va être compliqué les négociations.
Mais je peux comprendre leur logique à eux, vu la ligne offensive qu'ils ont. Ils se disent que n'importe qui derrière peut courir.
Moi, je peux comprendre la logique des deux. En fait, je peux comprendre que maintenant, vu les tarifs ou ce que valent les running backs, je peux comprendre qu'à 26 ans et après une grosse saison, Murray il veuille prendre un chèque parce que ce sera le seul de sa carrière probablement.
Oui,
dans 2-3 ans, c'est fini. On donne plus rien au running back de 29 ans. Donc je peux comprendre son point de vue et qu'il aille prendre le plus gros chèque, c'est pas choquant. Et après, comme tu disais, Dallas, je peux comprendre leur point de vue aussi, parce qu'ils ont une grosse ligne.
Enfin, c'est sa première vraie saison entière.
En plus,
il a quand même des problèmes de fumble, etc.
On l'a encore vu.
Une ligne offensive où tu dis que le moindre coureur avec un peu de talent pourra faire quelque chose de bien. Bon, bah
4
voilà,
ans, 16 millions, ce qu'ils lui ont proposé.
Ouais, ça me choque pas. Ça me paraît être une offre.
S'ils lui garantissent un minimum, ça pourrait être
correct. C'est ça, si tu garantis, je sais pas, sur les 16 millions, plus de la moitié.
Après, c'est une première offre, peut-être qu'il...
ça va s'ajuster.
S'il lui filait quelque chose autour de 5 millions annuels, avec pas mal de garanties, ça pourrait être intéressant.
Ouais, pourquoi pas. Non, mais en tout cas, effectivement, à mon avis, là, à la draft, les Cowboys, il faut qu'ils se concentrent sur drafter des joueurs qui ont le potentiel de faire des grosses actions en défense.
Ouais. Il faut vraiment parce que Maurice Claiborne a busté sévèrement. Là, il était blessé, je crois, mais en fin de saison. Il a jamais rien fait. Ils étaient quand même montés. Hein, je me rappelle, on l'avait fait en direct. Ils avaient monté un trade pour aller le chercher, Maurice Claiborne, à l'époque. Donc voilà, ils se sont gourés de gars de LSU. Finalement, c'était Patrick Patterson qu'il leur fallait. Et puis finalement, ils ont eu Maurice Claiborne. On passe au match suivant de la NFC, Seahawks 31, Panthers 17. J'ai envie de dire que le rouleau compresseur est en marche. Les Seahawks sont toujours sur leur très bonne ligne en défense. Les Panthers n'ont pas vraiment fait illusion. Ils ont bien résisté en début de match, en stoppant la course notamment.
C'est ça.
Mais après, ils ont été obligés de céder. Et alors j'ai envie de commencer par la défense. Cam Chancellor a été au cœur des louanges après ce match. Il est l'auteur de l'interception décisive en plus qui tue le match. C'est quand même l'âme de cette défense. J'ai l'impression même Richard Sherman disait qu'il se nourrissait de l'énergie de Cam Chancellor. Et comme au Super Bowl d'ailleurs, hein, au Super Bowl l'an dernier, c'est un plaquage énorme au début de match qui donne le ton.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non mais effectivement, c'est une défense des Seahawks. Donc Cam Chancellor, comme tu l'as dit, semble être vraiment cette âme. Qui a encore une défense qui est exceptionnelle, que ce soit contre la course, contre la passe. Il y a de la ligne défensive, mais une pression monstrueuse. Il y a par exemple Bennett, à un moment, qui fait Michael Bennett, qui fait un énorme plaquage. Enfin voilà, c'est complet sur tous les étages en défense. Et puis en attaque, leur attaque un peu bourrin au sol comme ça fait que tu peux résister un peu en début de match, mais j'ai l'impression que tu finis par craquer sur les assauts de Marshawn Lynch. Sur les escapades, les échappées, on va dire, de Russell Wilson, tu finis toujours par craquer un moment.
Et puis après, il y a une stat qui est folle, c'est le 8 sur 8 sur 3e tentative. Ouais, c'est incroyable. Et on le dit depuis un an, Russell Wilson est, pour moi, un des maîtres, si ce n'est le maître, peut-être avec Aaron Rodgers, de la gestion de savoir quand je passe, quand je cours.
Ouais, je suis d'accord.
Et il a eu un sang-froid dans ce genre de moment-là, et notamment sur 3e tentative, qui est incroyable. Non seulement c'est 8 sur 8 sur les 3e tentatives, mais c'est 3 touchdowns sur 3e tentative. Donc ils sont vraiment affûtés dans la gestion des moments chauds, et c'est ça qui fait en plus que cette attaque, et que cette équipe, je veux dire, dans l'ensemble, est hyper dure à jouer.
Ouais, je suis d'accord. J'ai en tête l'image où à un moment, Russell Wilson fait une course. Il se jette au sol, mais comme s'il avait eu un pressentiment, parce qu'il a un défenseur des Panthers qui revient derrière lui, qui à mon avis, si Russell Wilson ne le sent pas, il peut se prendre un gros choc dans le dos, il peut perdre la balle, etc. Il a cette espèce de pressentiment de le sentir, il se jette au sol, etc. Et c'est ça qui est énorme chez Wilson, c'est cette capacité à continuer le drive, à le faire prolonger en allant chercher le petit truc qu'il faut. Puis pareil, honnêtement, avec il fait une merveille avec les receveurs qu'il a, parce que sans faire injure à Baldwin, etc., à Jermaine Kearse, etc., c'est pas des élites receveurs. Mais et pourtant, il arrive à les trouver démarqués, il arrive à faire... Enfin...
Et sur les 5 derniers matchs, ils ont plusieurs passes de plus de 20 yards. Mm. Sur les 5 matchs, ça fait 5 matchs de suite qu'ils ont plusieurs passes de plus de 20 yards. Donc voilà, en plus, ils produisent du jeu. Quoi.
C'est ça. Donc, c'est vraiment une équipe qui est équilibrée sur tous les niveaux. Les Panthers ont un petit peu résisté, comme tu l'as dit en début de match, quand ils ont un peu réussi à bloquer Lynch. Et à partir du moment où Lynch prend l'ascendant physique sur les défenseurs des Panthers, bah, ça finit par craquer. Et Cam Newton fait encore quelques petites erreurs, mais en même temps, mais encore, il fait des erreurs. Les interceptions, c'est les défenseurs qui vont les chercher.
Oui, ils sont pas bon. C'est pas affreux, mais Seattle était un ton au-dessus dans tous les domaines à chaque fois.
Ça,
donc
c'est juste Seattle trop fort dans tous les compartiments de secteur pour ces Panthers.
C'est ce que disait Michael Bennett d'une manière assez étrange. Hein. C'est comme sa cousine qu'il avait envie de se faire. J'ai pas très bien compris son truc là, disant que les Panthers, allez voir sur le site de quoi on parle, mais tapez Michael Bennett dans le champ de recherche, vous trouverez la déclaration. Mais voilà, il a dit que les Panthers étaient comme la cousine
qui est belle, mais voilà, qui fait partie de ta famille.
Du coup, il peut rien se passer.
Ouais, c'est un peu étrange.
Aucun rapport. Nous, ce qu'on voudrait dire clairement, c'est que les deux équipes se ressemblent, mais que les Seahawks font tout mieux, et c'est ce qu'on avait dit dans la preview de toute façon. Mais c'est vrai qu'encore une fois,
c'est le match qui a laissé de moins de surprises, et on s'y attendait.
Mais encore une fois, vraiment impressionnant. Par Russell Wilson sur les 3e tentatives et pas parce que ça tue le moral d'une défense en plus, quoi.
Ouais, ça tue le moral, mais
8 sur 8 sur 3e.
Moi, je suis vraiment impressionné par toute l'équipe. Je trouve qu'il n'y a pas un secteur de jeu qui a à sortir du lot.
Ils sont extrêmement forts. Un mot sur les Panthers avant l'intersaison. Les axes principaux, ça va être quoi? Entourer Newton et renforcer l'arrière de la défense.
Je dirais peut-être entourer encore Newton au niveau des cibles.
Renforcer un peu l'arrière de la
défense. L'arrière
de
la défense, parce que le front 7 reste encore excellent. Les linebackers sont excellents, c'est ça. Par contre, petit quand même chapeau à Kelvin Benjamin pour un rookie. Pour
très belle
saison. Playoff, plus de 100 yards.
Très belle saison dans l'ensemble en plus. Et j'étais un des premiers à douter de lui. Et
vraiment.
Finalement, vraiment une très belle saison pour lui. On passe à la FC. Back to pass, right side. Batted it again.
Vous écoutez le podcast Touchdown Actu avec Alain Mattei et Raphaël Masmejean.
La conférence AFC, et c'était le premier match joué dans ce tour de playoff. On avait très peur pour les Patriots. Ils s'en sortent finalement 35 à 31 contre les Ravens. Et honnêtement, ça s'était pourtant confirmé en début de match, nos craintes. Ils ont été menés 14-0, ensuite ils ont été menés 28-14. Finalement, ils sont remontés, ils sont passés devant, ils ont intercepté Joe Flacco sur son dernier drive, sur son avant-dernier drive. Ils ont bien réagi, parce que d'habitude, dans ce genre de match, quand ils partent comme ça en play-off, ça sentait très, très, très mauvais.
Ah bah, ça sentait extrêmement mauvais. Même ces deux premiers drives hyper bien maîtrisés par Baltimore et Joe Flacco. Tom Brady, qui était déjà harcelé, qui recevait des plaquages durs sur l'homme, mais des plaquages valides, mais voilà, ou même qui était juste touché. En tout cas, il était vraiment harcelé. Il n'arrivait pas à développer le jeu. Il n'y avait pas de jeu au sol. Et là, effectivement, à 14-0, on s'est dit, bah voilà, c'est la recette classique, battre les Patriots. Tu joues bien de ton côté et t'harcèles Tom Brady, et puis ça va, il va rien se passer. Enfin,
clairement,
un match maîtrisé, quoi.
Clairement, moi j'ai vu le début de match, je me suis dit oh oh, voilà, c'est ce qu'on avait dit, le ton sera vite donné en début de match, c'est ce qu'on avait dit dans la preview. Et finalement, ils nous ont fait mentir, ils ont quand même bien changé par rapport aux dernières années.
Ils ont la bien réaction. Changé, mais moi, personnellement, ce qui fait à mon avis la différence par rapport à il y a deux ans, la défaite où ils étaient largement battus par les Ravens, c'est Rob Gronkowski, c'est la présence de Gronkowski.
Ah oui, oui.
Qui à 14-0 sort des grosses réceptions qui font avancer l'équipe. Il rentre dans le tas, il met des coups aux joueurs. Enfin, il a une vraie présence physique qui fait que ça fatigue forcément les linebackers qui lui courent après. Ça fatigue tout le monde. Et je pense que c'est vraiment l'élément qui fait changer ce match, c'est la présence de Gronkowski. Après, il y a les petits trucs de Belichick qui a un peu déstabilisé la défense adverse, etc. Ce trick play à Mendola,
superbe,
qui déstabilise aussi forcément, qui permet de revenir. Donc voilà, mais je pense que moi, vraiment, le MVP de cette attaque, le MVP de cette équipe, c'est Rob Gronkowski.
Je vais te dire, moi, juste avant la mi-temps, quand il y a la séquence interception de Brady et touchdown juste derrière, là, je me disais, ils ont quand même pris un coup sur la carafe, Gronkowski ou pas, je me disais, ils sont quand même mal embarqués.
Ouais, mais aussi.
Mais après, comme tu l'as dit, voilà, c'est revenu, tu l'as dit, donc le trick play, magnifique, passe de Julian Edelman pour Danny Amendola, pas mal. Danny Amendola qui sort un peu de sa tanière, d'ailleurs, ces derniers temps, c'est plutôt pas mal qu'il a attendu les playoffs, au moins, il n'a pas commencé fort. Et puis, donc, Bill Belichick qui a créé la polémique, puisqu'il nous faut une polémique par conférence, visiblement, avec, donc, cette tactique donc d'envoyer 4 linemen seulement sur le terrain et avec un autre joueur qui se déclare éligible au dernier moment et un autre qui se déclare inéligible et ainsi de suite. Voilà, il a aligné, je crois c'était un receveur,
un
tight end sur le poste de left tackle. Ah oui, Oman Nouanoui. Voilà. Donc qui était au poste de left tackle et qui est parti tout droit. Bon voilà, du coup c'est vrai que ça désorganise la défense. Apparemment en plus il faisait ça un peu au dernier moment. Donc hop, comme ça la défense peut pas ajuster, c'était un peu vicelard. Vislard, oui. Tricher, oui ou non? C'est Jim Harbaugh qui dit ça.
Non, a priori, c'est pas de la triche. Là encore, c'est pas de la triche parce que, à mon avis, la règle NFL est pas assez claire dessus. La règle NFL dit plus ou moins que les arbitres doivent aussi prévenir la défense et laisser le temps à la défense de s'adapter. Mais comment tu juges quand l'arbitre peut prévenir aussi la défense qu'un joueur s'est déclaré éligible? Comment tu laisses le temps à la défense de s'adapter, etc.? Et en même temps, c'est pas interdit de le faire. Donc non, pour moi, c'est pas de la triche. Voilà, tu utilises les règles jusqu'à la moelle, on va dire, de la règle et son essence même. Voilà, c'est juste que tu as prouvé que tu sais utiliser le rulebook de
la
NFL.
Moi, je vais te dire, je l'avais dit pendant la saison à un moment, d'une Belichick, il a perdu son truc, etc. Il m'avait fait mentir, je crois, la semaine d'après ou les deux semaines suivantes. Et là, donc, il continue sur cette lancée. Et c'est peut-être le truc qui me rassure le plus avec les Patriots, c'est que Belichick a retrouvé, je trouve, cette année son mojo. Il gagnait comme ça sur ses Super Bowls avec des trick plays, avec des petits trucs, avec des voilà. Et là, il y a ce trick play, il y a cette petite adaptation. Bien sûr, est-ce que c'est fair play? Peut-être pas trop. Ça a beaucoup énervé Harbaugh.
Ouais.
Mais voilà, mais c'est son côté génie diabolique. Il est non mais c'est ça
avec sa capuche là pendant
c'est ça
tout le match,
il a c'est son petit côté voilà moi c'est les règles, j'ai joué avec les règles
non
voilà.
Mais ça de toute façon tu peux pas lui en reprocher
et
ça
et donc et encore une fois ça dépend des points de vue mais c'est voilà justement il a trouvé ce truc là. Harbaugh dit personne l'a jamais fait, tant pis pour eux, ils avaient peut-être pas regardé assez bien.
Non mais oui, non mais clairement je suis bien d'accord. Et non mais puis de toute façon encore une fois voilà c'est toujours pareil, pour moi c'est une polémique qui a pas vraiment de sens parce que t'es dans les règles. Et que en plus, le match se joue encore une fois pas là-dessus. C'est
non, c'est quelques actions.
Tant qu'il y a des points, mais par exemple, moi je trouve le play calling des Ravens en fin de match assez foireux. Quand Joe Flacco va chercher une passe en profondeur alors qu'il lui reste 2-3 minutes,
C'est vrai que
sur une deuxième tentative, ouais. Il est en 2 et 5. Justin Forsett fait un très bon match. Les Patriots ont vraiment du mal à arrêter le jeu au sol. Tu es sur une deuxième tentative, tu as que 5 yards à faire. 2 minutes de la fin. Est-ce que balancer une bombe comme ça.
Ouais, après.
Est-ce que tu vois, est-ce que c'est vraiment. Voilà, c'est plein de petits trucs.
Après, ils ont osé aussi certains trucs. Il y a une passe longue sur une 4ème et 6 au début du 3ème quart. Ils sont quand même assez incisifs. Et...
Ouais, et Flacco est très bon jusqu'à la fin.
Joe Flacco est tellement bon sur le début du match.
C'est impressionnant.
C'est incroyable.
Et, ouais, à un moment, il est à 9 sur 10 déjà de touchdown. Tu fais bon, bah ça y est, Joe Flacco, il est en mode.
Et ils sont à 3 sur 3 sur les 4ème tentatives dans ce match.
Non, bien sûr.
Donc ils, avaient, ils ont osé des trucs. Mais alors voilà, la fin de match de Flacco est un peu compliquée. Il y a les deux interceptions.
Moi je pense que le play calling n'est pas assez.
Mais voilà, je pense pas que ça retire à sa performance.
Non.
Sur le début de match, il est incroyable.
Non, ça ne retire pas à sa performance. S'il ne fait pas un match aussi incroyable, les Ravens ne sont peut-être pas aussi longtemps dans le match
aussi,
non plus
en
à côté. Enfin, tu vois, c'est plein
mais
de
je veux dire, c'est tellement propre, c'est tellement efficace et chirurgical en début de rencontre.
Ouais.
Il est, c'est vraiment un quarterback de playoff incroyable. Il est vraiment très, 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 très fort.
Non, je suis d'accord.
Donc voilà, pour ça, ils sont sereins. Faudra qu'ils trouvent un peu de consistance en saison régulière et réussir à jouer comme ça. Mais en playoff, il est.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, paradoxalement, c'est peut-être la défense des Patriots qui m'a un peu moins rassuré que ces derniers matchs.
Oui.
Parce que certes, Joe Flacco est très bon dans ce genre de situation avec la pression, mais je trouve quand même qu'ils encaissent beaucoup, beaucoup de points face à des Ravens qui ont eu du. Pas tout le temps été brillant
en
attaque.
Je trouve que ça manque d'imagination en défense côté New
England
pour le coup.
Ils ont vraiment eu du mal à arrêter le jeu de course. Hein.
Ouais,
Justin
non, mais
Forsett pendant très longtemps leur a fait mal.
Je sais pas, avec le personnel qu'ils commencent à avoir, je trouve ça étonnant qu'elle soit pas plus performante encore cette défense.
C'est vrai.
Et ça commence à devenir une interrogation quand même au niveau du coaching défensif. Alors voilà, je sais pas à quel niveau Belichick est impliqué. Lui qui est censé pourtant, voilà, on parlait des triplés offensifs, son truc à lui c'est censé être la défense quand même, on le rappelle depuis longtemps. Donc c'est vrai que je les trouve un peu moins inspirés en défense que ce qu'ils pourraient être avec tout le personnel qu'ils ont.
C'était un peu la petite inquiétude sur ce match côté Patriots, parce que l'attaque, tu vois que quand elle arrive à se lancer, ça arrive à marcher. Mais en défense, j'ai pas trouvé ça très très bon. Mais alors après, est-ce que c'est parce qu'en même temps, Joe Flacco était très très.
C'est à voir.
C'est un peu un mélange des deux.
Mot sur la suite pour les Ravens, ils ont annoncé qu'ils bosseraient dans la continuité. Je vois pas d'autre chose à faire.
Ouais, comme ils font depuis pas mal d'années.
Prendre les meilleurs joueurs disponibles à la draft.
C'est
et
ça.
Puis,
pour moi, ça me paraît.
Broncos 24, Colts 13. Les Broncos menaient 7-0 après 5 minutes et puis plus grand chose. Peyton Manning imprécis, pas dans le timing. Et malgré deux interceptions lancées par Andrew Luck, les Colts ont pris l'ascendant au fil du match. La question, est-ce que ça sent la fin pour Peyton Manning?
Bah écoute, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, je sais pas comment il se sent vraiment physiquement, mais alors vraiment derrière l'écran, on avait le sentiment que
mal,
c'était, que c'était hyper haché, c'était vraiment la fin de quelque chose parce que. Les passes, il a fait des passes qui étaient trop longues, mais de 5-6 yards.
Et ce qui est fou, c'est que le problème supposé avec lui ces dernières années, c'était qu'il n'ait plus de bras. Et là, c'est que des passes lancées trop fortes.
Ouais, c'est ça. Là, les passes sont vraiment imprécises. Même il y a quelques passes courtes qui étaient franchement affreuses. Enfin, qui étaient...
Après, quand on a l'arrière de la cuisse déchirée, est-ce que ça joue pas un peu quand même?
Si, ça joue sans
parce
doute.
Parce qu'il n'est pas devenu mauvais d'un jeu du jour au lendemain,
non,
au milieu de saison.
Non, effectivement. Mais ça fait 4-5 matchs qu'on sentait quand même qu'il traînait
ouais,
un peu
la
patte.
Ouais, il est blessé depuis 4-5 matchs. Hein.
Non, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est la...
Parce
la,
que le problème, c'est que autant un Rodgers, je t'aurais dit, on le voit justement avec son mollet, il a encore le bras, il est jeune, Manning, il faut qu'il soit en bonne santé maintenant dans l'état où il est, puisqu'il va rester dans sa poche et il faut qu'il soit dans le timing, il faut qu'il soit bien. Je pense que la moindre blessure, même et justement aux jambes, ça dérègle toute la machine, quoi.
Sans doute, ça
parce que ça avait l'air forcé justement sa passe en profondeur.
En plus, c'est bizarre parce que le premier drive, il a l'air pas trop mal dessus et puis tout d'un coup, genre comme si rien que le premier drive avait trop tiré sur sa jambe, trop tiré sur sa nuque, son épaule, tout ce qu'il peut avoir comme petit souci physique. Et du coup, derrière, en attaque, ça s'est complètement écroulé. Vraiment, ils arrivaient plus
c'est
rien
vrai
à
que
faire.
Et puis la course a été bien stoppée. Hein. Si John Anderson est limité à 80 yards.
Ouais, et encore, c'est même lui, paradoxalement, qui s'en sort.
Il en a sauvé quelques-unes.
Ah, il en a sauvé.
Il y a une course là sur une 3ème et 1 là, qui est folle où il revient en arrière.
C'est une 4 et 1 même.
C'est une 4ème.
C'est complètement folle où on croit qu'il va se faire plaquer 5 yards en arrière. Il résiste un premier plaquage en 2ème. Il va convertir. Enfin...
Et ça rend Chuck Pagano fou d'ailleurs à la fin de l'action. Il jette son casque par terre.
Lui, j'ai envie de dire que CJ Anderson a fait le boulot pour essayer de sortir un peu de son marasme cette attaque. Mais voilà, l'attaque a été arrêtée par les problèmes de Peyton Manning. Et puis en défense, alors là, c'est une disparition.
C'est pareil, hein, avec le personnel qu'il y a, il y a un truc étrange avec cette défense cette année. Je trouve qu'elle n'a jamais performé de manière consistante. Ouais.
Là, pour moi, c'est franchement, c'est un problème. Ça vient des coordinateurs et du coach, parce que c'est pas normal que ta ligne défensive avec Von Miller, DeMarcus Ware, Knighton soit incapable de mettre une seule pression, même pas un sec, même pas un quarterback hit, etc. C'est pas normal. Pareil, tout le match, Aqib Talib s'est fait enfumer par T.Y. Hilton à cause de la vitesse de T.Y. Hilton. Il n'y a eu aucun ajustement, ils n'ont pas changé Talib. Ils ont laissé Talib alors qu'ils ont pris sa risque, un très bon cornerback qui est rapide, qui aurait pu aller sur Hilton.
Le score n'est pas énorme, mais en lisant ton résumé, puisque c'était toi qui étais dessus, ton action décisive, j'ai vu, c'est le drive qui donne le 21-10 pour les Colts, alors qu'il reste pas mal de temps derrière. On sentait vraiment qu'ils ne pouvaient pas revenir.
Bah, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est mon sentiment, c'est qu'à partir du moment où les Colts sont passés à 21-10, même s'il restait plus d'un carton et demi derrière, tout le quatrième carton, la moitié du troisième carton, t'as vraiment le sentiment que Peyton Manning n'est pas là, donc il serait incapable d'aller remonter le score. Et en plus, la défense n'est pas capable de créer les actions pour revenir derrière. T'as pas l'impression, comme les Seahawks, que n'importe qui pouvait sortir du match, faire une interception, la retourner. Voilà, ces Broncos ont jamais, enfin, à part le premier drive, ils n'ont jamais été dans le match, ou en tout cas, ils ont été sortis par les Colts. Ça aussi, les Colts font, à mon avis, un très bon match. Et voilà. Pour moi, 21-10, c'était plié et j'avais déjà le résumé aux trois quarts préparé.
Alors, Andrew Luck a pris le relais officiellement de Peyton Manning.
Ouais, très très beau match d'Andrew Luck, parce que ces deux interceptions, franchement, elles sont sans conséquence, c'est des longs punts.
Oui,
ils sont interceptés dans les 20 yards des Broncos. Voilà, c'est des punts, au final, il va même plus loin qu'un des punts fait par son punter pendant un moment pendant le match. Enfin, voilà, donc très précis, mobile, en même temps, il a été aidé, il n'a pas eu de pression cette fois. Il reçoit pas de pression.
Oui,
si en plus tu lui mets pas la pression à Andrew Luck, tu donnes les armes pour te faire découper, quoi, j'ai envie de dire.
On va reparler des Colts dans la preview après pour les finales de conf, mais on va finir sur les Broncos. L'avenir, il est plus qu'incertain. Tout va dépendre de Peyton Manning et John Fox est parti. On va parler de John Fox là avant d'en parler dans les news, parce que de toute façon, voilà, on peut en parler tout de suite. John Fox part, c'est quand même une demi-surprise, parce que moi je trouve que ça a une influence sur l'avenir de Manning aussi, quoi.
Ouais, c'est une influence sur l'avenir de Manning, mais en même temps c'est une demi-surprise, parce qu'avec le matos qu'il a, je veux dire, Elway a donné toutes les armes pour gagner le titre dès cette saison.
Après, moi, l'embauche de John Fox, c'était pas non plus ma grosse cam à l'époque. C'était franchement, c'était vraiment un mec à mettre là parce que Peyton Manning était là et que.
Non, c'est vrai. Donc apparemment, Manning, s'il veut rester, va être impliqué dans le processus de choix du nouveau coach. Donc voilà. Après, on parle des coordinateurs peut-être, peut-être pas d'autres mecs.
Si Adam Gase, puisque donc c'est peut-être aussi une manière de garder Adam Gase, parce que c'est obligatoirement, il partait de toute façon ailleurs avec tous les entretiens d'embauche qu'il a ailleurs. Adam Gase, le coordinateur offensif, il a bien été aidé par Manning à mon avis ces dernières années.
Questions quand même, hein.
Mais c'est de la même manière que Josh McDaniels décroche un job à Denver il y a quelques années après la saison folle des Patriots.
Hein. C'est ça, et puis c'est la même aussi Denis Allen, qui était coordinateur défensif des Broncos, qui est défense qui est forcément aidée par une très bonne attaque.
Oui.
Et qui
si vraiment ils pensent avoir un truc avec Adam Gase, ils virent John Fox parce qu'ils savent qu'il apporte rien. Ils mettent Gase au poste de head coach. Et à la limite, pour moi, ça pourrait être la manière d'aider Manning à rester. Parce que Manning Gase, lui en plus, l'a dit publiquement qu'il était prêt à le soutenir pour n'importe quel job, etc. Si le job c'est en plus chez lui, à mon avis,
il est pépère.
Donc mais je pense que ça a quand même une influence, parce que dire à Peyton Manning 38 ou 39 balais, on a un nouveau coach, on va avoir un nouveau système, etc. Est-ce qu'il va avoir envie de se farcir tout ça à nouveau pendant l'été, même s'il adore avoir le nez dans le playbook, etc. C'est quand même compliqué, tu vois. Je pense qu'il a été consulté avant le licenciement aussi.
Moi, je pense, et c'est pour ça que je serais vraiment pas étonné qu'Adam Gase, dans les jours à venir, soit nommé head coach de cette équipe.
Ça m'étonnerait pas non plus.
Et puis, parce que cette équipe, il manque pas non plus tant de choses que ça pour continuer
Manning, encore une fois, je pense pas qu'il soit si mauvais qu'il l'a été là. La blessure joue pas mal. Il peut encore être un quarterback correct. Je dis pas qu'il sera un quarterback élite, etc. Mais quarterback.
En défense, il y a aussi les armes.
Il faut voir s'ils arrivent à garder quand même. Ils ont pas mal de free agent au niveau des Thomas. Il y a beaucoup de Thomas. Tous les Thomas de l'équipe sont en free agent. Mais non, il y a quand même quelque chose à faire. Ça reste une équipe très très costaud. Donc faudra voir. Mais il y a beaucoup qui va dépendre de Peyton Manning, parce que sinon, c'est Brock Osweiler, votre quarterback. Ils ont l'air de croire en lui. mais ouais, ça peut être
un quarterback qui a une faute d'orthographe sur un de ses tatouages, personnellement
c'est vrai,
je ne fais pas confiance.
Je me rappellerai jamais du de la faute en question, je sais plus,
ouais, je sais plus ce que c'est, mais enfin
bref, ouais. On passe au top et au flop de la semaine.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ton top, Raphaël.
Alors mon top, c'est un peu ce passage un peu fou dans le match entre les Seahawks et les Panthers, où Cam Chancellor saute deux fois par-dessus la ligne offensive des Panthers pour bloquer le field goal. Le premier est bon, mais il est annulé. Le deuxième est bloqué, mais il est annulé. Et au troisième, le mec en a trop marre de son truc. Il reste de son côté, il arrête de sauter. Enfin, j'ai trouvé cet enchaînement de trois field goals complètement fou.
Ce qui est fou, c'est qu'il arrive deux fois de suite à passer par-dessus. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable.
Voilà,
Mon top à moi, c'est Aaron Rodgers. Je l'ai dit parce qu'il est quand même très, très fort, même sur un mollet. Et ça devient quand même incroyable. Et même Richard Sherman commence à me faire réfléchir au titre de MVP. Je sais plus. Il faudra un co-MVP Rodgers Watt parce que je sais plus quoi faire. Le flop,
les Broncos de manière générale, parce que j'ai trouvé que même les Panthers se sont plus défendus face aux Seahawks que les Broncos se sont défendus au Colts. J'ai vraiment eu l'impression d'une équipe jamais dans son match incapable de soulever quelque chose. Donc voilà.
Mon flop à moi, c'est un mec qui a gagné mais qui a pas joué, c'est Trent Richardson, qui était inactif mais en bonne santé pour les Colts. Et ça montre à quel point il est tombé bas, quoi. C'est vraiment je pense que c'est le coup de grâce à sa carrière là.
Mais clairement, c'est dur pour ça.
Ils lui ont préféré, donc l'excuse officielle c'était qu'ils pouvaient pas jouer sur les équipes spéciales et qu'ils avaient besoin d'un autre mec.
Cela dit,
jouait,
je le plains parce que sa carrière elle est aussi foutue en l'air, à mon avis, par la nullité des autres, enfin la nullité des Browns et des. Parce que je veux dire, il aurait jamais dû être sélectionné au premier tour.
Non.
Ça se trouve, c'est un mec, tu le sélectionnes au deuxième, troisième tour, il joue peut-être chez les Browns avec moins de pression, il y a moins d'attente, peut-être que tu vois ce que je veux dire.
Après, la notion de plainte prendra toute sa relativité avec les 20 millions de dollars qu'il a sur son compte en banque.
Trophée rookie. Je le pleure pas trop, mais tu vois.
Parce que numéro 3 de la draft,
je sais
pas dans les.
3.
Ouais. Ah, ils avaient fait fort cette année-là. 3 Richardson, 22 Whedon.
Voilà, non mais c'est un mec, ça se trouve, ses carrières auraient été différentes s'il n'était pas tombé sur un front office aussi nul. Et puis même Jim Irsay qui le récupère pour un premier tour et qui.
Ça lui remet la pression.
C'est bête parce qu'en plus, les Colts ont besoin quand même d'armes des deux côtés du terrain.
J'aimerais...
Et tu perds un premier tour pour.
J'aimerais bien savoir contre qui ils enchérissaient quand il a la charge du premier tour.
Il était sûrement encore bourré et sous médicament, à mon avis. Mais...
Complètement. On passe aux news.
Live from Studio 3C and Rockefeller Center. This is Today in New York.
Notre jingle news qu'on ressort de temps en temps, on fait une petite section info cette semaine parce qu'il y a des embauches chez les coachs et la plus fraîche. Alors peut-être, ça va dépendre du moment où vous nous écoutez, on va y revenir. Bon, alors on va commencer par la première. Rex Ryan arrive chez les Bills.
Un peu étonné par ce choix, peut-être du point de vue de Rex Ryan, parce que finalement il se remet dans
la même
position.
C'est la même chose.
Il a une très très forte défense. Mais il n'a pas de quarterback.
Je suis mi-étonné, mi-déçu. C'est-à-dire qu'il a la même chose. Il est dans la même division.
Il a un jeu de course aussi qui est bon, une ligne offensive qui est correcte, une très bonne défense.
Peut-être qu'il aimait bien sa situation, qu'il voulait juste une ville un peu moins grande que
peut-être,
New York
pour être
plus au calme.
Après, en soi, que les Bills fassent le choix de venir Rex Ryan, je le trouve plutôt bon parce que Rex Ryan peut apporter quelque chose, tu vois.
Oui,
mais c'est plus du point de vue de Rex Ryan, je suis un peu étonné qu'il aime se remettre dans une telle situation sans quarterback. La différence, il a un futur très grand receveur, à mon avis.
Ouais, j'allais dire, à la limite, il lui manque. Plus que le quarterback.
C'est
ou
ça.
À New York, là, il n'y avait plus rien.
Il
n'y
avait pas de receveur, il n'y avait pas de quarterback. Il y avait un jeu au sol parce qu'il fait venir Tomlinson qui fait une dernière belle saison.
Oui, à ce moment-là, ouais. Mais cette année, il n'y avait plus rien non plus.
Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est un peu...
Moi, je suis assez circonspect de ce choix, très honnêtement. Je ne vois pas le...
Ou alors, est-ce qu'il voit en Eddie Manuel quelque chose qui...
Je ne pense pas. Je pense qu'il va essayer de faire venir son quarterback rapidement, ouais.
Jay Cutler.
Non, peut-être, je sais pas.
J'ai vu les rumeurs un peu circuler sur le net.
Je sais pas s'il nous refaisait s'il nous refait le coup de drafter un mec dès sa première année, puisqu'il avait drafté Sanchez en 5 dès la première année. Ah oui, puis les Bills ont pas de choix du premier tour en
c'est
plus.
Ça,
oh là 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 là. Ah oui, non, je sais pas s'il a vu ça avant d'y aller parce que c'est compliqué quand même. Hein.
Ouais,
parce que là, ils vont
pas.
C'est impossible qu'ils montent un trade pour monter chercher un des premiers quarterbacks. Du coup, vu qu'ils ont plus de.
Ouais,
enfin, ils vont pas griller les leur draft sur 20
les
ans.
Les Buccaneers ont le premier choix. Ils ont besoin d'un quarterback.
Ah, mais en plus, ouais. En plus, ça, c'est un. On en reparlera quand on fera les previews draft. Hein. Mais pour que les Buccaneers et les Titans lancent leur choix, va falloir donner vraiment énormément. Parce qu'il y en a aucune des deux qui a intérêt à pas prendre un quarterback.
Les deux équipes au courant d'un. Ce truc secret sur un des deux quarterbacks,
après,
c'est
voilà.
Que c'est un futur bust et va faire exprès de. Tu vois,
voilà, mais... Après, je peux comprendre si les Titans ne veulent pas prendre le risque avec Jameis Winston,
voilà,
qui sera numéro 2, qui lâche à quelqu'un qui veut le prendre. Mais bon, voilà. Et ouais. Mais vraiment, je suis circonspect pour Rex Ryan.
J'étais presque déçu pour lui de la démission de John Fox hier soir. Je voyais bien Rex Ryan contre Peyton Manning. J'aurais adoré.
Ça aurait été fun. Mais je crois que c'était peut-être une des raisons pour lesquelles il n'était pas allé à New York aussi quand il était libre.
Ouais,
c'est... je sais plus, mais
ouais,
bon. Mais non, moi j'étais surtout déçu qu'il n'aille pas aux Falcons. Et alors, la rumeur c'est qu'il était impatient, il voulait très vite régler sa situation, il voulait rester dans le coaching. Le problème c'est que donc, les Falcons, et on le voit là, ont toujours pas décidé, c'est qu'apparemment la mère du propriétaire est morte. Donc il est allé aux obsèques, et voilà, donc c'est un impondérable. Et ça ralentit le processus de recrutement, mais c'est légitime. Je veux dire, ce pauvre monsieur, il a perdu sa mère. Il faut bien qu'il s'en occupe. Ça reste plus important que le sport. Et donc, du coup, voilà, ça ralentit le processus. Donc, j'espère juste que c'est pas
après,
à cause de ça.
Ce qui est dommage, c'est qu'il ait personne pour aller à l'entretien et lui rapporter.
Non, mais après, tu sais, il y a des proprios qui sont très.
Ils
veulent voir le gars.
Ouais,
et bon, voilà, donc il est parti. Mais j'espère que c'est pas à cause de ça que ça s'est joué et que.
Vrai que, ouais, Rex Ryan au Falcons aurait pu faire du bien parce que là, il avait. L'attaque, il avait juste à remobiliser.
Il avait un
quarterback.
Ils ont juste besoin d'un coup de fouet défensif, quoi, et d'un mec qui les motive. Pour moi, il était parfait. Et un autre qui aurait été parfait aux Falcons, c'est Todd Bowles, embauché par les Jets. Et là, pareil, je suis circonspect. Parce que eux aussi, ils gardent la même chose.
Ils gardent un mec avec un esprit défensif, agressif, mais on ne sait pas ce qu'il peut donner en attaque. Alors après aussi, ça. Peut-être qu'il va s'entourer d'un mec pro en attaque.
Peut-être.
Tu vois, c'est ça aussi. C'est que faut pas non plus qu'on s'arrête.
Je crois que c'est Chan Gailey qui est dans les rumeurs pour être coordinateur offensif.
J'ai vu Chan Gailey notamment. J'ai vu un autre nom hier, mais enfin, voilà. Mais comment dire.
Je crois que Gailey a été confirmé, mais j'espère que je dis
confirmé
pas de bêtises.
Déjà
ouais.
D'accord. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'après, faut pas non plus tout poser sur le head coach, parce qu'un head coach qui sait s'entourer de coordinateurs, de bons coordinateurs, ça peut permettre aussi à l'équipe. Et si. Chan Gailey, par exemple, fait soulever cette attaque des Jets et que Bowles a juste à plus ou moins se concentrer sur la défense, ça peut très bien marcher. Maintenant, j'espère quand même que les Jets sont prévus un plan pour l'attaque. Quoi.
Ben c'est ça. Moi, honnêtement, je reste circonspect parce que je suis persuadé que lui aussi, il aurait été nickel à Atlanta. J'ai du mal à comprendre le choix de ces deux coachs-là, encore une fois. Bon, voilà, pourquoi pas. Et alors, autre nouvelle qui va vous laisser circonspect, je ne sais pas si tu l'as vu celle-là, Raphaël, parce que tu étais peut-être en chemin pour venir au studio, c'est que les Raiders ont peut-être trouvé leur nouveau coach.
Ah oui, apparemment Jack Del Rio.
Et voilà, et Jack Del Rio, alors encore une fois, selon le moment où vous allez nous écouter, ça sera peut-être finalisé ou pas. C'était en cours de finalisation, selon les médias américains, à l'heure où on enregistre. Jack Del Rio serait le nouveau coach des Raiders. J'avais dit qu'ils allaient faire une bêtise quand ils ont auditionné Mangini.
Attends, Del Rio c'est mieux que Mangini.
C'est mieux que Mangini. C'est mieux que Mangini. Mais
ouais. T'es pas convaincu.
Non.
Bah écoute, il a quand même fait quelques belles saisons chez les Jaguars, deux saisons avec des playoffs.
Oui, mais c'est un Gary Kubiak, quoi. C'est un mec qui est bien des coordinateurs défensifs, mais qui est bien coordinateur, je veux dire. Mais
je t'avoue que je sais pas trop comment me positionner sur Jack Del Rio. J'attends un peu de voir. Je suis pas aussi pessimiste que toi, je suis pas optimiste, hein. Je vais pas dire que c'est un choix. Peut-être ce qui me rassure, c'est qu'apparemment, il est pas le choix de Reggie McKenzie, et c'est Reggie McKenzie qui avait choisi Dennis Allen, tu vois.
Ouais.
Donc je me dis que peut-être si là, McKenzie a pas eu son mot à dire, que c'est plus le fils Davis qui a donné son avis, c'est peut-être mieux. Voilà.
Oui, alors les décisions de la famille Davis, je sais pas si c'est.
Est-ce que c'est mieux ? Je sais pas. Non, mais moi j'attends de voir parce que Del Rio, j'ai trouvé qu'il avait fait des belles saisons chez les Jaguars quand même en tant que head coach.
Je sais pas, pour moi c'est un mec comme Gary Kubiak où à l'époque où il était au Texans, c'était les mecs qui plafonnent plus ou moins, comme des John Fox, des mecs qui sont bien, mais qui manquent un truc pour être au-dessus.
En passant head coach, puis en repartant coordinateur, il a peut-être appris de ses erreurs.
Voilà, je suis pour les deuxièmes chances, parce que Belichick par exemple avait été passé au travers à Cleveland, faut le rappeler, dans sa première chance. C'est vrai. Les trucs de Cleveland, les mecs doivent l'enlever de leur CV, tu sais, quand ils envoient.
Le premier mec qui fera gagner à Cleveland un Super Bowl, tu vas voir.
Ce sera une légende. Allez, on a fini pour ces news et pour les embauches de coach. On passe à la chronique de Raoul.
Pour ce podcast numéro 99, impossible de vous parler d'autre chose que de J.J. Watt. Vous allez me dire, mais ça c'est pas de l'histoire. Oui, mais dans ce cas, vous n'avez qu'à conserver précieusement cette chronique et la réécouter dans quelques années, et là vous aurez une petite larme à l'œil en repensant à ce fabuleux joueur. Justin James, ou J.J. Watt, est né le 22 mars 1989 dans le Wisconsin. Il va y passer toute son enfance, et même plus puisqu'il ira à la fac du même nom. Le premier amour de J.J. en sport, c'est le hockey. Il va pratiquer de 4 à 13 ans, de quoi se forger un solide physique. Puis c'est vers le football qu'il se tourne. Il joue ses premières années en tant que tight end et defensive end, et le succès est déjà là. Il est déjà nommé dans l'équipe de l'année de l'état du Wisconsin pour les deux postes. Il joue sa première année de fac à Central Michigan en 2007. Il n'occupe plus qu'un poste de tight end, mais il sent que ce rôle ne lui convient peut-être pas. Il n'a que 8 réceptions et 77 yards sur ses 14 matchs. Du coup, il cherche à revenir près de chez lui et se tourne vers la fac du Wisconsin. Et là, il ne joue plus qu'au poste de defensive end. Watt prend une première saison pour se faire aux mécaniques de son futur poste de prédilection. Bien lui en prend puisque l'année suivante, en 2009, il prend part aux 13 matchs de son équipe en réalisant des statistiques tout à fait honorables. Il fait même plus fort en 2010 en finissant premier dans quasiment toutes les statistiques défensives de son équipe et il est évidemment nommé MVP de la fac. Fort de ses bonnes performances, Watt décide de zapper sa première année d'université et de se présenter directement à la draft. À part sur le sprint de 40 yards, il finit dans le top 3 pour chaque exercice. Les scouts NFL en font un candidat plus que probable au premier tour. Bingo ! Ce sont les Texans qui décrochent le gros lot au 11e rang. Ils signent Watt pour 4 ans à la hauteur de 11,2 millions de dollars. Depuis son arrivée dans la NFL, J.J. est tout simplement une machine de guerre. Il n'a raté aucun match sur les 64 disputés par son équipe. Il cumule 295 plaquages sur ses 4 années dans la ligue avec une moyenne de 80 par saison sur les 3 dernières, soit la première ou la deuxième place de la NFL à chaque fois. Il est le seul joueur à avoir réussi 2 saisons de plus de 20 sacs dans sa carrière. En 2012, il est nommé joueur défensif de l'année avec 49 votes sur 50. Ça et tout un tas d'autres trophées qui seraient bien trop longs à rémunérer. 2014 est l'année de la consécration puisque le monde du foot US, déjà effrayé par ce phénomène, découvre ou redécouvre ses qualités de tight end. En une saison, il inscrit 5 touchdowns, 3 en réception, 1 sur une interception et un fumble recouvert qu'il avait lui-même forcé. Finalement, 2014, c'est l'année de la récompense ultime pour J.J. Watt. Après 4 saisons et pour la première fois pour un défenseur depuis 1986 et Lawrence Taylor, Watt est nommé MVP. Ouais, pardon, je voulais pas vous spoiler, c'est juste que pour vous, quand vous réécouterez cette chronique dans quelques années, vous pourrez repenser à ce moment où J.J. Watt est monté sur scène pour recevoir son trophée et Roger Goodell qui twerkait sur cette musique. Turn down for what?
Merci Raoul Villeroy pour cette nouvelle chronique histoire. Nous, on passe à vos questions. C'est parti pour vos questions et on commence avec la première qui est dans les mains de Raphaël.
Alors, question de l'ami Eichild 82. Du fait que Dez Bryant est free agent, où pensez-vous qu'il va atterrir ? Nulle part, il va rester à Dallas.
Il bouge pas, voilà. Ouais. Clairement. Si on peut rassurer les fans des Cowboys, ça c'est sûr, Dez Bryant ne bougera pas, il y aura au moins le franchise tag.
Ouais, c'est ça. Et il y a une deuxième question avec, comment les Broncos vont gérer l'après-Manning ?
Il y aura une phase de reconstruction, mais...
A priori, ils vont donner leur chance à Brock Osweiler en moins une saison.
Bon, c'est ce qu'ils disent pour l'instant, ouais.
C'est ce qu'ils ont l'air de dire.
Mais il y aura une phase de reconstruction.
Mais je ne serais pas étonné, ils ont quand même mis un deuxième tour, je crois, pour
l'avoir. Oui, c'est un deuxième tour, ouais, c'est un deuxième tour.
Je pense que vraiment, ils le testeront. Hein.
Oui, non, il y a des chances. Après,
Il mériterait d'être testé au final, parce qu'on complètement... se moque de lui. Mais...
Non, mais oui, on plaisante de son tatouage et du fait qu'il ressemble à Robert Pattinson, mais derrière ça, ça a l'air d'être un gars très sympa.
On verra bien ce que Brock Osweiler donne après.
Belge 48 qui nous dit: pour vous, y a-t-il un head coach qui aurait dû sauter mais qui est toujours en poste? C'est la première question. Joe Philbin.
Ouais, Ken Whisenhunt. Je
savais que t'allais sortir Ken Whisenhunt. Oh, je le savais tellement. Joe Philbin à Miami.
Ouais.
Joe Philbin à Miami où il plafonne. Sinon, quel est votre rookie défensif de l'année? Beckham Jr. est au-dessus du lot en attaque. Pas mal de bons linebackers.
Aaron Donald, moi-même, j'aurais dit le defensive tackle des Rams.
CJ Mosley, Baltimore, pas mal. Il y a Borland aussi à San Francisco.
Ouais, je vais mettre un peu derrière les deux.
Mosley, j'aime bien.
Moi, je dirais Mosley ou Donald. Mais...
Et puis, merci pour tout. Et Alain, bon voyage en Arizona, petit salopard, il y a marqué. Merci beaucoup. J'ai récolté quelques insultes affectueuses ces derniers temps, mais je vous en remercie.
Alors, question de Floriders. Bon, que pensez-vous de Jack Del Rio? On en a parlé. Donc,
dans les news,
ouais.
On va passer pas. Voilà, faut écouter les news. Non, mais oui, on l'a dit, moyen. Question d'Abbas de Popopovic. Rodgers sur une jambe ou Dalton sur deux?
Roger
sur une jambe, il l'a montré, hein, c'est fou. Romo avec des ligaments des mains en moins ou Cutler avec tous ses doigts et sa clope?
Romo,
même sur... En tout cas, sur les matchs de 10 qu'on vient de voir, c'est Murray et sa main cassée ou Maurice Jones-Drew plus Toby Gerhardt plus Trent Richardson?
Démarque Murray.
Mais si les trois se mettent à la queue leu-leu et se poussent les uns les autres, tu sais, pour...
Peut-être que ça peut aider.
La femme de Brady ou les femmes de Lou The Man Williams? Ah ouais, mais ça, c'était peut-être pas au courant, Raphaël, toi qui suis pas la NBA. Lou Williams est un joueur NBA qui a deux femmes qui se connaissent et qui sont consentantes.
Ah.
C'est-à-dire qu'ils se prennent en photo ensemble tous les trois, ils se mettent sur Instagram et tout ça, et c'est ses femmes. Voilà.
Bah alors là, chapeau l'artiste. Franchement, chapeau l'artiste, quoi. Il a réussi.
Donc, je saurais pas dire.
Après, Gisèle, quand même, parce que Gisèle.
Gisèle, c'est quand même.
Gisèle est belle en plus.
Quand même, Gisèle.
C'est elle qui t'invite au resto, vu le pognon qui
Ah oui, c'est vrai qu'elle t'entretient.
Ah ouais, Gisèle, franchement.
Tom Brady, l'homme qui gagnait 20 millions par saison, mais qui se fait entretenir. Un demi-cerveau de Bill Belichick ou les cerveaux de Phil Bean et Mike Smith? C'est dur.
C'est méchant.
C'est dur. Je prends Belichick, quoi.
Ouais, allez.
Et puis comme beau-père, Tom Coughlin ou Jim Caldwell? Donc c'est la peur ou l'ennui, il a marqué.
Il y avait un joueur des Giants qui avait pour beau-père Coughlin, un de nos linemen.
Oui, c'est vrai.
Je crois que c'était Chris Sneed qui avait pour beau-père.
Ça me dit quelque chose, ouais, cette histoire.
Qui sortait avec la fille de Coughlin.
Ouais.
Chris Sneed ou peut-être Sean O'Hara,
un des deux. Je crois que c'était Sneed.
Ouais, Sneed, il me semble.
À choisir le beau-père, je dirais.
Coughlin, moi, personnellement.
Je
pense qu'il a plus de choses à te raconter.
Je dirais Coughlin, mais sinon je dirais John Mara, le propriétaire des Giants, parce que ça veut dire que t'es avec Kate Mara dans ce cas-là. Et les gens qui regardent House of Cards savent.
Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Alors, question de Brady Namnam, donc dilemme aussi. Wilson ou Luck?
Wilson ou Luck?
Ouais, franchement, moi, j'arrive pas à choisir.
Je dirais Luck quand même.
Je trouve que les deux ont tellement de qualité.
Je dirais Luck quand même parce que je pense que dans la situation de Wilson, Luck serait aussi très 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 fort.
Ouais.
Et je sais pas si Wilson serait aussi fort dans la situation où est Luck en ce moment.
Je sais pas. Franchement, je t'avoue que les deux.
Mais à pas grand chose, mais je dirais Luck.
Alors ensuite, Lynch ou Lacey?
C'est dur parce que j'aime beaucoup Eddie Lacy quand il est en forme et qu'il est dedans.
Ouais, qui fait pas des crises d'asthme, le pauvre, en plein match.
Ouais, pauvre, ça c'est pas très marrant, ça.
Non, je dirais peut-être Lynch actuellement, mais bon. Et enfin, Sherman ou Darrell Revis ou Vontae Davis?
Sherman, Darrell, je dirais Sherman.
Sherman encore, ouais. Et une petite question un peu troll. Et enfin, à la course, Trent Richardson ou Tom Brady?
Tom Brady, il est actif, il est sur la feuille de match, donc c'est tellement drôle quand il essaye de courir. Ça m'éclate à chaque fois. JH38, bonjour à tous, je ne comprends pas la différence entre un holding et une interférence de passe lorsque le receveur va attraper la balle, pourriez-vous m'éclairer? Eh bien, c'est assez simple, un holding c'est quand j'arrive plus à articuler. Quand l'attaquant est tenu par le défenseur, mais quand on s'accroche à l'interférence, c'est juste l'embêter avec les bras, avec tout, mais sans s'accrocher, grosso modo. Question suivante.
Alors, question de Air Jag. Pourquoi, lors d'un fumble, un joueur se sent-il obligé de se jeter dans la mêlée alors qu'il y a déjà une tonne et demie de joueurs NFL au-dessus du ballon?
Franchement, ça, des fois, c'est un peu bête quand même.
Ouais,
hein,
quand il y a déjà une dizaine dessus et qu'il y a un mec qui saute par-dessus.
Puis ça... tu sais, quand tu les vois qui sautent, mais genre heureux, quoi. Tu sais, genre comme des ouf, et bah, ils s'écrasent.
C'est ça, en fait, ils le font juste parce que ça les fait marrer de kiff, plonger dans le tas. Quoi,
je crois que ça défoule.
Je crois que c'est ça.
Comme quand tu sautes dans une piscine à balles, quoi. Tu
non, mais c'est ça, à mon avis, il n'y a juste pas de...
Mais après, cela dit, après, je sais pas, peut-être que les gars espèrent vraiment, tu sais, faire bouger... Je parle des premiers, parce que tu sais, quand il y a 2-3 gars, et ceux qui se jettent encore... Je pense qu'ils essayent d'arracher le truc,
oui,
de mettre
oui,
des coups et tout.
Trois premiers, ouais.
Parce que c'est très, très sale, ce qui se passe dans la mêlée au milieu. Il y a des trucs, moi, j'avais lu justement dans le bouquin de Ned Jackson, enfin, il y a des trucs très, très sales. Hein. Ça pince, ça machin, c'est très... même, j'avais lu des articles sur Internet, voilà, c'est... Limite, ça pince les parties ou quoi. Ils en arrivent pas là, ça, c'est extrême, mais c'est... ça peut être... c'est violent, quoi. Question de KS Pats, les fesses de Gronk ou celles de Kim Kardashian? C'est la question décalée du jour. Non, alors plus sérieusement, la photo du joueur des Ravens qui accroche le pantalon de Rob Gronkowski avec son face mask, qui est assez marrant. Quoi.
C'est vrai. Mais sinon, je t'avoue que je sais pas quoi répondre à cette question qui m'embête.
Allez, deux dernières.
Question de Swiss TD, si vous jouiez en NFL, quel poste ce serait en attaque et en défense?
Je crois qu'on avait déjà eu une fois cette question.
Ouais.
Moi, j'avais dit receveur lent.
Ouais, moi, j'avais dit coureur lent.
Très honnêtement, je suis désolé. Je pense que j'ai des bonnes mains. Je vous jure, c'est vrai. Je pense que j'ai des bonnes mains. Par contre, mais le problème, c'est que j'ai pas la vitesse. Donc, ce serait compliqué. Il faut qu'on me lance le ballon quand je suis à l'arrêt. Quoi.
Coureur lent, je dirais. Et puis en défense, linebacker.
En défense.
Je me vois bien de ça en Mike linebacker, celui qui décide un peu au milieu, linebacker.
Moi,
qui...
je me vois en cornerback lent aussi, mais ça va être compliqué.
Non, mais comme ça, je dis à mes partenaires quoi faire, mais moi, je fais pas grand chose.
Ah ouais, plus, moi,
je les oriente.
Safety remplaçant. Un truc comme ça. Ou punter. Yo-Yo 0607, bonjour. Pensez-vous qu'il reste en course les 4 meilleurs quarterbacks de la saison régulière? Luck, Brady,
Wilson. Rodgers, bah ça se défend fortement. Peut-être Romo éliminé sur la saison de Romo est vraiment bonne.
Ouais non, ça se défend. J'aime bien les 4 et meilleur de la saison régulière qui
moi Romo, juste cette saison, sur la saison entière, Romo est peut-être meilleur que Wilson par exemple.
J'essaie juste d'être sûr qu'on n'en oublie pas, mais ça me paraît pas mal. Allez, vendu. On passe aux affiches de la semaine. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, we're gonna work on three. One, two, three, work. On passe au final de conférence. Plus que deux matchs avant le Super Bowl. C'est triste en effet. Et le premier, ce sera dimanche à 21h entre les Seahawks et les Packers. Rematch du premier match de la saison. Victoire 36 à 16 des Seahawks. 81,5 d'évaluation pour Aaron Rodgers. Deuxième plus mauvaise évaluation de la saison. Pas une seule passe lancée vers Richard Sherman. Marshawn Lynch avait couru 110 yards et 2 touchdowns. Wilson avait été bon. Est-ce qu'il y a un favori dans ce match?
Ouais, les Seahawks. Et malheureusement, j'ai peur pour les Packers que ce soit à peu près le même scénario que sur le premier match. En plus, là, Aaron Rodgers est sur une jambe. Très franchement, quand je vois poste par poste, enfin en tout cas les match-up, receveur contre défenseur de telle équipe, etc., je vois vraiment pas beaucoup de quoi être optimiste pour les Seahawks, enfin pour les Packers, je veux dire.
Clairement, les Seahawks aussi, et puis bah, la défense gagne les titres, et Aaron Rodgers c'est sur une jambe, donc c'est compliqué, faudra vraiment qu'il fasse le match de sa vie.
Ouais, et puis que la défense, pareil, élève son niveau, qu'elle bloque Lynch, qu'elle. Enfin.
Alors, tu penses qu'ils évitaient vraiment Sherman sur le premier match ou que c'est comme Aaron Rodgers le disait, question de match-up, à chaque fois c'était couvert?
Je sais.
Moi, ça se tient, la théorie se tient.
Ça se tient, mais en même temps, des fois, il faut aussi faire confiance à ton receveur pour lui envoyer la balle et en un contre un.
Ouais, mais si le mec il couvre bien à chaque fois.
Bah ouais, mais.
Tu fais ta progrès, tu dis ta défense, le gars est couvert, il passe à autre chose à chaque fois.
Ouais, non, ça se défend. Bah, de toute façon, on va vite le voir. On va vite le voir ce dimanche, en tout cas.
Est-ce que le jeu au sol va pas être décisif? Ils ont autorisé 123 yards à DeMarco Murray, les Packers. Avec Marshawn Lynch en face, on parlait du jeu de course.
Puis Wilson qui est capable d'en mettre aussi au sol.
Non, mais voilà, et du coup, ça va les priver de ballon en plus si Seattle déroule. Donc ça pourrait être. Et après, les Seahawks ont laissé 132 yards et 4,4 yards par course à Carolina. Donc Eddie Lacy a un coup à jouer aussi.
C'est vrai. Les Seahawks ont un. Mais je sais pas, je t'avoue que ce match-up me laisse un peu...
Moi, ce qui me fait peur pour Green Bay, autant le match-up Rodgers contre défense, mais les Cowboys ont été efficaces, on l'a dit. Romo n'a pas eu besoin de beaucoup lancer, ils ont gagné des yards au sol, etc. Et Seattle peut faire exactement ça, sans avoir un Dez Bryant ou quoi, mais ils peuvent faire exactement ça, et leur défense est encore meilleure. Donc, sur le papier, c'est quand même compliqué. Quoi.
Bah ouais, moi, sur le papier, je pense que les Cowboys auraient posé un plus gros défi aux Seahawks que les Packers vont le faire. Et en plus, vraiment, moi, cet Aaron Rodgers sur une jambe à moitié, en tout cas. Enfin, à moitié sur une jambe, ça ne veut rien dire.
Mais... Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire.
Compris l'idée, mais... Voilà, moi, j'ai bien peur que pour les Packers, à part un gros match au sol d'Eddie Lacy, vraiment. Qui parvient à déstabiliser la défense et à forcer la défense peut-être à un peu plus mettre deux joueurs dans le paquet pour contrer la course et du coup libérer des espaces.
Un contre un, ouais.
En dehors de ça.
Parce qu'il y a pas mal de bons receveurs. Il y a Nelson, il y a Randall Cobb qui est pas mal, Devante Adams s'il arrive à refaire. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement. Voilà, il y a tellement de bons corners.
Puis, le truc, c'est. Enfin, les Seahawks ont montré par exemple au Super Bowl qu'ils étaient capables de couvrir tous les receveurs des Broncos.
En plus.
Voilà, et là pareil, autant les Cowboys ont eu du mal à mettre la pression sur Aaron Rodgers, parce qu'à mon avis, la ligne défensive des Cowboys, c'est pas terrible.
Ouais.
Autant là, t'as Cliff Avril, t'as Michael Bennett,
et le problème,
t'as Bobby Wagner.
Et il peut pas s'échapper.
Il peut pas courir. Enfin, ce match, j'ai. Enfin...
Passons aux pronostics. Alors, ces deux dernières saisons, les Packers ont été sortis par les 49ers. Est-ce qu'ils vont encore perdre
les pronos? Tu m'as repris 6 points quand même cette
saison. Et alors voilà, je voulais faire le point pronos avant de le donner. Ah, donc.
Tu n'as plus qu'un point de retard.
Donc.
Tout se joue là. Quoi.
Je vais la jouer modeste cette fois. Je vais même pas flamber. Mm. Mais donc, j'ai plus qu'un point de retard.
Mais pour les Ravens, c'était pas très serein. Hein.
Non. Pour... j'avais pronostiqué l'inverse pour essayer de remonter. Mais j'ai quand même bien joué le coup, tu vois. Après les deux. Avoir remonté, puisqu'on avait le même sur le Colts Broncos, je crois.
Ouais.
Donc j'étais bien. Et j'ai bien fait de pas inverser. Ah non, j'aurais dû inverser sur Colts Broncos.
Cela dit, moi aussi, j'hésitais vraiment sur le Colts Broncos. Aucun des deux était très.
Bon, je suis revenu à un point. Ma tactique est en place.
Mm.
Donc voilà. Ouais. Donc je disais que les Packers ont été sortis par les 49ers deux fois. Est-ce qu'ils vont encore perdre contre une équipe de la NFC West? C'est l'heure du pronostic.
Bah moi, je vais jouer les Seahawks parce que, comme on l'a dit, je vois pas.
Je vais jouer les Seahawks aussi. Je vois pas parce que j'ai plus qu'un point de retard et je veux pas tout gâcher sur ce match. En même temps,
sur l'autre. Bon, bref,
mais sur l'autre, je pense qu'on va avoir les mêmes pronostics cette semaine.
Ouais.
Donc il faudra que je joue tout sur le Super Bowl, ce qui m'embête un peu, tu me diras.
Bah ouais, mais moi, parce que je domine toutes les saisons et tout perdre sur un match, je t'avoue que ça me.
Je sais, mais bon, après, on a dit qu'on faisait quoi, 5 points le Super Bowl?
Ouais, on était en discuter, moi je voulais pas.
Alors attends, définissons maintenant, parce que
pour
après,
moi,
ça va changer
pour
la tactique.
Le Super Bowl, on devrait pas accorder 2 points, parce que sinon, si toutes les saisons se jouent juste sur le Super Bowl, on a juste qu'à faire le Super Bowl et c'est réglé, quoi, tu vois.
Bah, c'est parce qu'il y a du suspense à chaque fois.
Ouais, je sais pas.
Alors, combien de points sur le Super Bowl? Qu'on décide tout de suite. Parce que ça change ma tactique sinon.
Bah ouais, mais tu m'étonnes.
Parce que l'an dernier, on avait fait 10 points, je crois, mais c'est parce que j'en avais 12 de retard, je crois.
Ouais, 12-13, donc bon, voilà. Et justement, tu vois, on t'avait pas donné la possibilité de tout rattraper sur un match.
Et bah, donc on fait combien sur les finales de conf d'ailleurs?
On avait dit 4, hein.
4, parce qu'on a fait 3 à ce moment-là.
Ouais,
donc on fait 5 sur le Super Bowl, non?
Ah, bon, allez, 5.
Allez.
Et je suis vraiment gentil, hein, parce que.
Allez. Donc, allez.
J'ai gagné la saison régulière.
Donc, je vais prendre les Packers. Comme ça, si je perds, j'ai 5 points de retard. Et si je gagne sur le Super Bowl, on finit à égalité. Ça te va?
D'accord.
Allez, donc je prends les Packers. Et ben, c'est sur ce jingle suivant et match d'après. It's time, baby! Make it special tonight! You play to win the game. Hello?
You play to win the game. You don't play to just play it. Vous écoutez le podcast Stage en Actu avec Alain Matéi et Raphaël Masmejean.
Minuit et demi dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera la finale de conférence AFC avec un classique Patriots-Colts, mais avec un quarterback différent du côté d'Indianapolis. Là aussi, donc deux équipes qui se retrouvent et se sont jouées en semaine 11, 42 à 20 pour les Patriots. Le héros du soir, c'était Jonas Gray, 37 courses, 201 yards, 4 touchdowns. et qui n'était même pas actif contre les Ravens, Jonas Gray.
Mais qui sera sûrement dimanche actif.
Et alors, en playoff l'an dernier, le Garrett Blount leur avait passé 166 yards au sol. Le jeu au sol, ça paraît être un bon axe de travail.
Ça paraît effectivement être un bon axe de travail, mais en même temps, sur ces playoffs, vraiment, la défense des Colts a élevé son niveau de jeu, élever son niveau de jeu contre le sol, parce qu'on l'a vu, ils ont limité Anderson à 80 yards, ils ont très bien limité Giovanni Bernard et Jeremy Hill sur le premier match.
C'est vrai.
Ils ont l'air d'avoir progressé sur ce domaine. Donc vraiment, je pense que s'ils arrivent à maintenir ce niveau-là qu'ils ont eu sur les deux premiers matchs au sol face aux Patriots, ils n'ont pas non plus de top coureurs.
Non. Bah, la preuve, on ne sait même pas qui va courir,
voilà,
d'ailleurs.
Pourquoi pas, franchement, ça pourrait déjà leur enlever une sacrée grosse épine du pied s'ils arrivaient un peu à bloquer le jeu au sol.
Après, ils n'ont pas réussi le moindre sac sur Tom Brady lors du match. Sur le papier, l'attaque des Patriots, c'est quand même bien.
Ouais, elle est bien. Moi, c'est un peu le problème de toute manière. C'est pour ça que les Colts, on n'y croyait pas. Enfin, personnellement, j'y croyais vraiment pas trop avant les playoffs. C'est parce que cette défense manque quand même de pass rush et pas très bonne contre la course. Pour moi, ils ont un très très bon joueur, c'est Vontae Davis, qui peut prendre n'importe quel receveur à peu près en homme à homme, qui fait une saison monstrueuse. Mais derrière ça, effectivement, il n'y a pas de pass rush. Donc, si tu n'arrives pas à harceler Tom Brady, souvent tu perds, quoi.
Et alors, l'autre problème dans l'autre sens, en tout cas, il faut espérer pour lui que ça ira mieux. Andrew Luck contre les Patriots, 3 matchs en carrière, 0 victoire, 3 défaites, 53,8% de passes complétées, 6 touchdowns, 8 interceptions. Alors, je sais pas si Belichick le joue bien, je sais pas si. Et puis, alors, tu disais, bon, les deux turnovers sont pas vraiment graves contre les Broncos, et etc.
Ouais,
mais,
franchement,
mais il a quand même une petite proportion au turnover, il en fait régulièrement. Contre les Patriots, il va pas falloir en faire beaucoup parce que ça revient vite, hein, dans l'autre sens.
Ouais, ça revient vite parce que les Colts n'auront pas forcément de quoi bloquer justement ces Patriots. Maintenant, on l'a vu, il est capable d'emballer le match. Andrew Luck, il l'a montré. Ils ont enfin un peu plus de jeu au sol avec Daniel Aaron. C'est pas encore.
C'est un minimum. Ils ont le minimum.
Voilà, ils ont le minimum qu'il faut pour un peu avancer au sol et ne pas faire que des passes. Donc forcément, ça aide un peu.
Oui, parce que dans le match de la semaine 11, je crois que Luck est le meilleur coureur avec 15 yards.
C'est ça. Donc là, si ne serait-ce ton jeu au sol arrive à te faire du 70, 80 yards. Et on l'a vu, les Patriots, c'était un peu fragile contre le sol, contre Justin Forsett.
C'est vrai.
Donc si les Colts arrivent un peu à amener ce jeu au sol, ça peut aussi aider Andrew Luck.
Après, encore une fois, il y a plus de playmakers dans la défense des Patriots.
Il y a plus de playmakers.
Les dans
Patriots
tous les secteurs.
Sont une équipe plus complète que les Colts dans tous les secteurs de
c'est
jeu.
C'est quoi le scénario où les Colts gagnent?
Pour moi, c'est un scénario où Andrew Luck emballe totalement le match et arrive à suivre Tom Brady à la passe, mais un très très gros match.
Il faut que ça s'emballe dans tous les sens. Quoi.
Ouais.
Moi, j'allais dire, c'est plutôt si leur défense elle prend feu. Quoi.
Ouais, maintenant, est-ce qu'elle peut prendre feu, tu vois, c'est...
Je sais pas, je sais même pas qui y mettre sur Gronkowski.
Ouais, en même temps, il y a peu d'équipes qui savent qui
mettre sur Gronkowski. Oui, personne sait qui mettre sur Gronkowski, mais tu vois ce que je veux dire, ils vont se faire. Je sais pas, moi j'ai peur qu'ils souffrent énormément
en
défense.
Même temps, tu vois, j'ai trouvé que cette défense, depuis les deux premiers matchs de playoff, a réussi quand même à élever son niveau de jeu.
Oui, après.
Elle est capable de créer des turnovers.
Il y a des défenses qui après réussissent des coups en playoff comme ça. Hein.
Qui sont pas très bonnes toute la saison et qui tout d'un coup en playoff, t'arrives à te sortir le truc. Et c'est peut-être enfin ça l'effet Pagano qu'on attendait tant sur la défense.
Oui, il serait temps aussi.
C'est peut-être ça, tu vois, ça y est quoi. Donc je sais pas.
Allez, pronostic. L'an dernier, les Patriots sont sortis des Colts en playoff 43-22. Les Colts peuvent-ils mieux faire?
Je t'avoue que j'hésite en fait.
Ah ouais?
Ouais, je sais pas pourquoi. Là, les Colts sont sur une dynamique qui me. Je vais jouer les Patriots quand même, mais attention, monsieur Brady. Attention.
Je vais jouer les Patriots. Et le mythe des pronostics qu'on a dit, hein, je suis remonté à un point, je suis à 3 sur 4 sur le week-end. Donc,
ouais, c'est vrai.
J'ai pas maudit grand monde, à part Ohio State en finale universitaire. À part Oregon, du coup, que j'ai marabouté
en
pronostic.
En même temps, je pense que pas grand monde.
Je pense pas que grand monde voyait venir Ohio State sur cette finale. Bref, on passe. J'allais baisser mon micro au lieu de baisser le tapis sonore. Bon, passons au 2 minute drill, vous l'avez compris. Est-ce que tu crois que les coachs des Ravens et des Cowboys ont envie d'aller coacher au Pro Bowl?
Ouais, c'est des vacances tout frais payées.
Mais c'est pas à Hawaï, hein.
Ouais, c'est vrai.
Se rappeler que c'est pas à Hawaï cette année.
Il y a le soleil, tu prends quand même le soleil, a priori.
Un petit peu, ouais.
Le plat de Robert Griffin est aux enchères, est-ce que ça t'intéresse?
Complètement. Mais je sais pas si c'est ma taille, en fait. Wes Welker est libre, où est-ce qu'il joue l'an prochain? Compliqué,
là,
ça.
Je
pense qu'il part, mais je sais pas où.
Comme ça, je vois pas d'équipe tout de suite.
Un petit retour aux Patriots.
Ouais, pourquoi pas.
Ce serait fun.
Les Seahawks sont déjà favoris pour le Super Bowl 2016 sur certains sites de Paris. Quel est ton pronostic ?
Je vais mettre une pièce sur les Raiders. Parce qu'une pièce pourrait me rapporter beaucoup d'argent, je pense rien que ça. Russell Wilson, quarterback le mieux payé de la ligue, est-ce que ça serait un scandale ?
S'il va chercher un deuxième titre, on serait... Non, on serait pas dans
vu l'inflation
quoi.
Des salaires.
Ouais, vu ouais. La truc, Tom Brady est-il le meilleur joueur de toute la NFL sur les réseaux sociaux ?
Énorme, il est fabuleux. Lenny Kravitz avec Katy Perry à la mi-temps du Super Bowl, est-ce que ce sera un peu mieux ?
Bouais.
Bouais ?
Ouais, bouais quoi.
À peine bouais quoi.
Ouais, à peine.
Bon, pas mieux que bouais alors. C'est comme ça que se termine le numéro 99 du podcast Touch en Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Pour nous suivre, touchenactu.com bien sûr. Twitter, @touchenactu pour l'actu en général sur le site. @Raphaël_TDA pour Raphaël. @AlainMatei pour moi-même. @RaoulVDG pour Raoul Villeroy de Gallo que vous avez entendu dans la chronique Histoire. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchenactu.com. Très bonne semaine, très bon match à tous. Ciao, ciao! I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a and I say, tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.